Auparavant, si vous permettez, quelques mots. Alors, Sylvain va nous dire comment on va procéder par rapport à cette question très importante. Il y aura deux interventions. Le rapporteur et celle de Michel, mais auparavant, si vous le voulez bien, quelques mots. Merci. Je vote cet apport et je parle à tête. Alors. Voilà. C'est une question importante parce qu'il y a du patrimoine bâti à Lourdes, il y a aussi du patrimoine naturel. Et j'ai fait ces quelques mots à la fois pour peut-être éclairer le débat, regarder aussi ce qui s'est passé ces dernières semaines, recadrer les choses. Je le fais aussi à direction des Lourdaises et des Lourdais qui, je suis certain, connaissent leur histoire. Mais là, comme elle est peut-être un peu plus méconnue, il me semblait utile de recadrer dans quel environnement ce projet se situe. On peut dire que la géologie a été généreuse pour la ville de Lourdes. Puisque l'ayant doté de roches propres à l'exploitation des carrières de pierre et de schiste, elle lui a donné un gave dont les eaux ont longtemps déposé sur les berges un sable de grande finesse, comme les Lourdais, agent complémentaire pour l'utilisation des pierres. Au long de la traversée de la ville, les points d'extraction ont fait l'objet d'investigations sur le domaine communal et ce depuis très longtemps. Dans la zone qui nous intéresse, deux sablières sont exploitées. La sablière du P est pesquée, actuellement le Quai Saint-Jean, et la sablière du Paradis. Ces sablières sont exploitées jusque dans les années 1900-1910. Puis, à cette économie du bâtiment et des tailleurs de pierre, se substitue petit à petit une activité touristique. Au fil du temps, et pour l'accompagner, le secteur entre le pont commerce et le pont vieux s'est aménagé, d'où le fait de sa proximité avec les sanctuaires et de la présence de terrains peu accidentés. Vers les années 50, le boulevard du Paradis a été matérialisé, c'est le passé actuel, et l'urbanisation s'est développée. Entre 1948 et 1959, la terrasse évoquée pour former le boulevard du Paradis a été comblée de manière à ce que son niveau soit celui du boulevard actuel. L'aire de stationnement est aussi avec un revêtement bitume. Le bâtiment de la gare routière est construit, c'était la moitié du bâtiment actuel. Entre 1959 et 1962, une protection de berge de type mur est réalisée. Il a sa tête sommitale au niveau zéro du parking actuel. Le bâtiment de la gare routière est doublé en superficie. En 1979, la rive droite à l'aplomb immédiat du pont, est comblée et une protection en enrochement libre, assez dégradée à ce jour, est mise en place. Tous ces aménagements de la rive droite ont donc permis de développer l'urbanisation de ce secteur, d'offrir des axes de circulation, de stationnement, et pour ce faire, il a fallu gagner de la place sur le méandre du gave qui existait. Très important, on va voir pourquoi. En rive gauche, les travaux de mise en place de pâte planche ont été réalisés en 1975 sur presque tout le linéaire du tronçon et ont conduit à un resserrage du lit d'origine. Deuxième point important. Par contre, le verrou rocheux sur lequel est implanté le pont vieux n'a jamais subi de modification, n'a jamais été détruit par les crues, alors que l'histoire révèle que la crue de 1875 a emporté tous les autres ponts de la ville. Il a été élargi, ce verrou, en 1899, date d'ailleurs mentionnée sur le parement en haut du pont. Un des aménagements importants de cette zone fut donc l'élargissement de l'avenue Peyrade. Par délibération du 25 février 1975, la commune de Lourdes, sa municipalité, son maire, décide de l'engager et de réaliser l'assainissement. elle fait réaliser une étude intitulée « Projet de calibrage du garde-pont, mur de protection entre le pont vieux et le pont Péramal, incidence de la crue centenaire de 520 mètres cubes par jour afin d'évaluer l'incidence du projet sur l'écoulement des eaux. » Cette étude conclut que la diminution de la section du gap liée à cet aménagement, environ 7 mètres par endroit, induira une hausse du niveau des eaux d'environ 25 cm. Troisième point important. Le projet d'amener des eaux usées, qui conduit à la pose d'un collecteur au droit des hôtels, nécessite la création d'un mur de soutènement sur toute la longueur de l'avenue Péramal. Deux solutions sont alors envisagées. La création d'un mur béton armé fondé sur pieux, dont le coût est évalué à 6 millions de francs. La réalisation d'une protection en pale planche métallique, dont chaque élément a une longueur d'environ 12,5 mètres, pour un montant de 3 millions de francs. Concernant cette solution dont l'intérêt financier est évident, des interrogations sont soulevées du point de vue esthétique. Il est mis en avant, je cite, que l'un des secteurs les plus fréquentés de la ville risque de subir une dégradation esthétique importante étant donné la monotonie de la protection en pale planche. La question est posée sur les possibilités d'habillage de la protection. Certaines réponses sont mises en avant, comme par exemple la mise en place de cures réparties régulièrement pour rompre cette monotonie visuelle. Il est aussi envisagé d'alterner les solutions pour ne pas offrir une protection d'un seul tenant. Il est évoqué que les pales planches subiront inexorablement les assauts du temps et leur dégradation devra être camouflée par des aménagements comme par exemple des plantes retombantes disposées en haut de berge. Il nous revient à nous ou à nos successeurs de traiter ce sujet. J'avais souhaité, avant d'engager le projet de valorisation de l'espace GAP et d'aménagement des avenues Péramal et Paradis qui le bordent, comprendre et mieux connaître l'histoire de son urbanisation et de son développement. Je ne pensais pas que ces informations seraient aussi précieuses et éclairantes les 19 et 20 octobre passés 2012. J'ai coutume de dire, et je le répète, que chaque génération d'élus et de Lourdes a apporté sa pierre au développement et au rayonnement de notre ville. Et les décisions d'aménagement prises sur cette zone par les responsables de l'époque, je les aurai également validées. Le cahier des charges du concours architecte, qui date de plus d'un an, évoquait le caractère inondable du secteur comme élément principal à prendre en compte dans la proposition d'aménagement et une étude hydraulique du garde-pont dans la traversée de Lourdes très récente, puisque conclue en janvier 2012, était jointe en pièce annexe du concours. Vous voyez que la problématique hydraulique n'avait pas été négligée, loin s'en faut. Et nous avions demandé à la direction départementale chargée de la police des eaux d'expertiser les propositions des quatre candidats sous cet aspect. Les techniciens ont conclu que les quatre projets avaient bien pris en compte la contrainte inondation et correspondait aux préconisations de l'étude hydraulique. La crue du 20 octobre et les phénomènes induits dans cette zone viennent renforcer notre réflexion. Et Michel Azot vous expliquera tout à l'heure comment le nouveau projet apporte des réponses et permet de corriger les deux éléments principaux qui ont fragilisé le secteur le 20 octobre. D'abord, le phénomène cumulatif des encombrants qui sont se caler derrière le pont vieux. Pour votre information, il y a plus de 40 mètres cubes d'embâcle encombrant, ce qui est énorme et qui de ce fait génère une plus forte hauteur d'eau. Et le deuxième point, j'y viendrai à la fin, les retours d'eau par le réseau d'assainissement. Je veux rappeler ici, pour l'avoir déclaré à maintes reprises, et je le réitère, cette crue était un événement important. Ce n'était pas un événement exceptionnel. Pourquoi ? Nous savons dorénavant que c'est une crue qui ressemble à une crue vingtenale, ni cinquantenale, ni évidemment centenale ou millénaire, comme vous voudrez, et cela doit vous engager à mesurer donc les choses dans cette étape. Sans rentrer dans les détails, deux possibilités techniques seront étudiées sur ce dernier point. Soit des clapets anti-retour, je parle de la rive droite, soit un réseau à altitude plus haute et une pompe de relevage. Sur l'autre point, les aménagements prévus en rive droite, nous sommes, rappelons-le tous parce que nous sommes responsables, toujours sur des zones inondables. La nature est là. Permettre de donner plus d'espace à l'eau, donc de limiter la hauteur de crue et de favoriser la dépose des flottants. Veuillez m'excuser de cet exposé, mais je crois que nous devons alourdir, en général et aux riverains en particulier, une approche particulièrement sérieuse. Il y a eu depuis le 20 octobre beaucoup d'hydrauliciens, d'opérettes et de maternelles. Moi, je ne suis pas hydraulicien. J'ai des conseils, nous en avons tous, nous les écoutons et nous essayons d'aller au bout. Pour notre part, nous vous proposons une approche sérieuse, mais aussi participative et partenariale. Nous organiserons courant janvier une réunion d'information au cours de laquelle les techniciens de la direction départementale en charge de ce sujet viendront avec nous expliquer la crue du 20 octobre. Et je souhaite également que des comparatifs visuels entre les crues de 37, de 79 et de 82 et de 2012 illustrent les évolutions sur certains secteurs afin de mieux comprendre pourquoi les phénomènes induits dans certaines zones sont différents des crues précédentes. Mais ce projet poursuit d'autres finalités également. D'abord de valorisation de l'espace GAB, de requalification urbaine, d'organisation de la circulation, y compris piéton, et du stationnement. Il s'inscrit, vous le savez, dans un projet touristique valorisant la ville de Lourdes et les grands sites Midi-Pyrénées. Avant de céder la place à la fois à Michel. Sylvain va vous présenter les travaux du jury du concours Archi, qui ont été conduits, je veux le dire ici, dans un excellent esprit et dont le résultat que nous présentons et que je soumets à votre délibération a été pris à l'unanimité des participants. Deux choses, si vous le permettez. Au-delà de la présentation en réunion de la crue du 20 octobre, ce qui aura une double valeur, à la fois visuelle, mais aussi psychologique pour beaucoup d'entre vous. Concernant ce projet, nous allons constituer un comité de suivi. Ce comité de suivi emportera à la fois des élus municipaux, vous choisirez, on n'en est pas encore là, on verra dans quelques semaines, peut-être lors du prochain conseil municipal, je dis bien comité de suivi du projet, et évidemment des acteurs socio-professionnels, qu'ils soient riverains, si possible, et quels qu'ils soient, afin d'associer tout le monde à ce qui sera, je crois, un projet intéressant pour la ville de Lourdes. Enfin, je le dis, nous n'oublions pas, j'ai parlé tout à l'heure de problématiques liées aussi au réseau d'assainissement. Nous avons terminé quasiment l'étude sur le schéma directeur d'assainissement. Je le dis ici, il n'y a pas que la crue du Gave à Lourdes. La crue du Gave, on le sait, elle se répète. Elle se répétera dans des proportions qu'il nous faut bien évidemment baliser. C'est aussi le but du jeu, en proposant ce projet, voire des mesures en amont aussi de ce projet, puisqu'il s'agit là de traiter les bergues du Gave au droit du pont Pommel jusqu'au pont Vieux et au-delà jusqu'au pont Saint-Michel. En amont de cela, connaissant pour bien être rendu bien évidemment, et cela à plusieurs reprises, les dégâts occasionnés, en particulier sur l'avenue Peyramale prolongée, nous n'oublions pas ce secteur. Sachant, connaissant la problématique générale d'assainissement, je vais répéter qu'il n'y a pas simplement que la crue du Gave. Il y a aussi des incidents pluvieux importants sur la ville de Lourdes et qui génèrent des dégâts et des difficultés pour beaucoup dans un secteur qui, malheureusement, parce que c'est la topographie de Lourdes qui veut ça, et son urbanisation, donc elle collecte des eaux parfois très nombreuses. Je le dis ici et je le répète. Ce schéma directeur d'assainissement permettra de juguler beaucoup de ces incidents. Mais comme nous avons voté tout à l'heure, ou plutôt nous avons discuté autour des orientations budgétaires, et nous avons vu aussi un budget d'assainissement, sachez que les dépenses que nous allons effectuer dans les années qui viennent pour réduire ce risque, moi je ne prétends pas résorber le risque anéantit à 100%. Mais nous le devons à beaucoup de nos habitants et à beaucoup de nos socioprofessionnels. Donc, ces investissements, ils vont se mesurer par plusieurs millions d'euros. On aura l'occasion d'y revenir. Mais je veux dire par là que lorsqu'on traite la question de la berge droite du Gard, en particulier à propos de points bas qui ont été atteints, comme vous l'avez vu, et les Lourdaises et les Lourdais, les plus vieux se rappellent de toute façon que tout le paradis, au regard de ce qu'on appelait auparavant la Galia, était largement inondé. Donc la nature, c'est notre maître. Essayons ensemble de constituer le chemin d'une nature un peu plus brisée avec un aménagement harmonieux, ici ou ailleurs. C'est en tout cas tout le but que nous proposons au travers de cette délibération. Si vous êtes prêts, tous, c'est à toi.
Donc, par délibération à date du 17 mars 2011, les membres du conseil municipal avaient décidé d'approuver le programme ainsi que le règlement du concours d'architecture devant aboutir au choix du maître d'œuvre pour la valorisation de l'espace étudiable, l'amélioration du dispositif d'accueil et de la promotion des grands sites avec des villages. Je vais vous faire un rappel du contexte avant de lire le corps de la délibération. Donc, le projet poursuit plusieurs finalités, comme le disait M. le maire, parmi lesquelles un volet paysager, c'est-à-dire requalifier et valoriser un espace de plus de 15 000 m2, organiser les conditions de circulation et de stationnement et aménager les cheminements piétons, améliorer le dispositif d'accueil et s'inscrire dans un projet touristique valorisant de la ville de Lourdes et les grands sites de la ville de Rennes, c'est donc un projet touristique, et retrouver une porte d'entrée sud vers la zone autonomie. Le projet s'inscrit dans un jeu de contraintes de nature diverse. Le maire en a parlé à l'instant, donc l'aménagement dans ce secteur fortement inondable de l'eau permettent également l'accès aux hôtels pour leur bon fonctionnement et une accessibilité handicapée particulièrement sensible. À propos des objectifs, les attendus de l'étude sont les suivants. La définition d'un projet global et cohérent sur le parcours du Gard, de l'esplanade du Paradis au Pont Saint-Michel, portant principalement sur le concept paysager et les principes de fonctionnement du site. L'aménagement des avenues Paradis et Pénaval. Le projet porte sur l'organisation spatiale des espaces en définissant leur occupation et leur utilisation, les principes de circulation et les espaces pour les piétons. Une proposition scénographique d'information portant un espace vitrine des grands sites de Midi-Pyrénées ainsi que sur un centre d'interprétation du fait de l'eau dans ses dimensions tant historiques que culturelles. La mise en valeur du cadre et le traitement paysager de ces rives et la conception paysagère de ces espaces. L'organisation et la fonction circulation-stationnement, y compris les stationnements temporaires, les traitements de sol et les matériaux à mettre en œuvre, le mobilier urbain nécessaire à la vie dans le secteur et les principes généraux d'éclairage et de mise en scène. Sur ceci. Donc, je vais vous parler des critères. Les critères pris en compte pour le jugement de ces ordres. Le premier critère est le respect du programme et la prise en compte des enjeux du site. Le deuxième critère est le fonctionnement général et l'organisation spatiale et fonctionnelle des avenues et la qualité de la réponse paysagère. Très important. Troisièmement, le scénario proposé pour favoriser le déploiement de l'offre touristique sur la zone, en particulier le caractère innovant et évolutif du dispositif d'accueil et d'information. Quatrièmement, le respect de l'enveloppe financière. Et cinquièmement, le forfait de rémunération proposé. À propos du respect de l'enveloppe financière, vous le saviez, était même le programme, mais elle était respectée et proposée par l'ensemble des candidats, au nombre de 4. Elle s'est levée à 4 500 000 euros. Voilà. Donc, après, qu'est-ce que j'ai envoyé ?
Non, on voit rien.
Donc, sur le choix du jury.
Ah, il va expliquer. Est-ce qu'il y a une plage ?
On aura des explications, si on peut être à la lumière. On lui répète par la lumière.
Merci.
Le public,
le choix du jury s'est porté sur le projet que vous avez à l'époque. Pour vous dire, nous avions 4 projets, nous avions 29 dossiers retirés, 18 candidatures qui ont été déposées. L'ensemble des dossiers ont été examinés par les jurys. Le jury a retenu 4 équipes, et parmi ces 4 équipes qui ont pu concourir, c'est le jury a proposé donc ce projet. Je vous donnerai lecture de la délibération. Donc, le plus important, la motivation donc, du jury, c'est le volet principalement, le volet paysager. Le volet paysager proposé dans ce projet apporte un équilibre entre le minéral et le végétal qui marque ainsi une identité pyrénéenne. Je rappelle M. le maire tout à l'heure, on parle de l'identité. Il prévoit de profiler la bande des berges, de réintroduire le motif du rocher, essentiel dans le
sol de l'eau,
le rocher de la Vierge, le rocher du Chapeau,
le rocher du Chapeau,
les berges
du Chapeau, le rocher sera
et les cimes des Pyrénées. La mise en valeur de la trame bleue qui est longue, bien sûr, et la restructuration de la trame verte crée ainsi un théâtre de berges. La variété des traitements apporte une animation des berges de la rive droite. La rive gauche, elle était en 2 séquences. Une séquence semi-détonne et une séquence détonne avec un caractère naturel. Le traitement du parapet et des balustres ainsi que les balles franches seront requalifiés par des éléments végétaux. À propos du stationnement et de la circulation, la rive du paradis est reportée de circuit. Est reportée de façon significative sur l'esplanade. La circulation n'est pas fondamentalement modifiée et très allégée sur l'avenue du paradis, qui permet de faire respirer cet espace. Le centre d'interprétation scénographique. Le projet est principalement illustré par des animations visuelles et lumineuses avec des projections sur les façades et des mises en lumière. Le marquage de cet espace se fait aussi par des dispositifs d'architecture réalisés au sol, en pierre, schiste locaux et végétaux. La contrainte d'inondation, pour le savoir, l'ensemble des candidats avaient répondu, bien sûr, à ces problèmes d'inondabilité en suivant le règlement du plan de prévention des risques. Améliorer, rendre attractif cet espace, laisser toute la place aux piétons afin de trouver la sérénité et la douceur. C'est le résultat de cette réponse.
Mais ils vont faire un pont, une pompe pour les piétons, il faut.
Voilà. Alors,
c'est le
charbon. Vous voyez, vous situez. Sur la partie gauche, nous avons l'esplanade du paradis. Avec, disons, une restructuration et une végétalisation et une restructuration de cet espace, qui est un espace, bien sûr, de stationnement. On va passer à l'autre image. Voilà. Donc, la réponse entre le pont de Metz et le pont de l'Europe. Nous avons là les deux réponses. Une, comme vous disiez, la rive gauche traitée en 2 séquences, donc piétonne et circulation, avec un traitement du parapet et végétalisation de cet espace. Élargissement des trottoirs, réduction des voiries pour permettre d'abord un ralentissement de la circulation et puis une hiérarchisation
de la voirie.
De l'autre côté, nous avons un traitement des berges, comme je vous le disais, qui est un théâtre de verdure avec des cheminements piétons qui permettent de déambuler, de retrouver un peu de sérénité sur cet espace et puis surtout de le requalifier. Il faut savoir qu'en même temps, vous pouvez voir le lit du gave avant le pont de Metz et le lit du gave après le pont de Metz, il est réduit. Donc, il faut savoir que cet espace-là aussi, Michel le dira tout à l'heure, qui permet de dilater le lit du gaz pour permettre l'eau de s'écouler lors de fortes inondations. De ce côté-ci, donc, nous avons allégé considérablement, là aussi, l'élargissement des trottoirs sur le front bâti, réduction de la voirie, reconstruction de celle-ci, puisque l'espace vert vient de la voirie de Sade, puisque si vous voyez, vous avez aujourd'hui un parking sur cet espace-là, de requalification. On conserve malgré tout un certain nombre de parkings-là qui sont utiles, mais en moins grande quantité et plus organisé, c'est-à-dire en épis, qui permet de pouvoir s'approcher des hôtels et puis rendre confortable cette circulation. Que dire d'autre ? Vous voyez au milieu du gap la présence d'une passerelle. Cette passerelle était une option dans le projet. Parmi les quatre candidats, deux avaient proposé la passerelle, deux sans passerelle. Ce n'est qu'une option, donc il faudra discuter de l'opportunité de cette passerelle, là ou ailleurs, si elle existe. Elle permet, là, dans ce projet, l'argumentaire de la maîtrise d'œuvre était de dire on raccourcit et on liaisonne les deux plus facilement, les deux rives, pour se rendre et retrouver un espace, on va dire, piéton plus à l'échelle. Et sur cette passerelle là aussi, ce maître d'œuvre avait proposé la réponse du centre d'interprétation, c'est non magique. Que l'on reverra certainement, puisque c'est peut-être pas, c'est le comité de pilotage, comme le disait M. le maire, qui va aussi maintenant entrer dans les détails pour juger de l'opportunité ou pas de la localisation de cet élément là. Nous avons aussi la présence là dans ce projet de la gare routière. Vous pouvez le voir, là il est conservé à cet endroit-là. Peut-être, est-il judicieux, suivant, parce que là il a un intérêt, parce que la passerelle est là. Si la passerelle n'est plus là, peut-être que le parking des bus et la gare routière pourraient être déplacés. C'est aussi un élément de discussion. Il y a un effet également sur la rive gauche, côté avenue Peyramal, d'un effet de belvédère sur le cap. Il est intéressant, il est végétalisé, et qui permet un panorama et une tribune vers la lecture de Sucrière en face. Il faut savoir que les verres sont composés d'éléments verts et d'éléments de cheminement piéton. Alors, il faut savoir également que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, à vue de l'inondabilité de cet espace, les matériaux choisis sont des matériaux qui ne devraient pas bouger après la décrue. Il faut aussi le souligner. On peut passer sur l'autre portion. Voilà, ça ce sont des arrachés d'images. Et là nous avons la deuxième partie, donc entre le pont et le pont Saint-Michel. Donc là il y avait plusieurs parties proposées par les divers candidats. Soit nous cheminions pour rejoindre l'avenue du Paradis et le boulevard de la Côte, soit nous cheminons le long du Gave par une passerelle, qui est très difficile à réaliser compte tenu du foncier et de l'architecture des berges. Donc ce projet-là propose une remontée vers la rue de la Côte et aussi piété pour se rendre vers le quai Saint-Jean. Et là, nous avons un traitement de requalification de ces espaces jusqu'au pont Saint-Michel. Voilà, je pense que je vous ai
oui,
Et c'est un projet au regard de la question du traitement de l'inondabilité qui n'est pas seul. Il est clair que la commune devra réaliser sur la commune du Pont-Gomès un certain nombre de travaux. Le but aujourd'hui n'est pas de les définir en interdiction. Ce projet a été accepté à l'unanimité des membres du jury, qui ont très bien travaillé de manière longue et exhaustive. Je le dis parce que l'unanimité emporte aussi la présence de Madame Boulet, qui était la bienvenue, et qui a voté pour ce projet. Il reste que ce projet, et voilà pourquoi j'ai dit à l'amont qu'il y aurait un comité de suivi, recèle un certain nombre d'interrogations au regard, l'une de notre financeur, l'un de nos financeurs qui est la région, au sens où nous pensons et nous le disons, les quatre projets n'ont pas été particulièrement perspicaces à propos de la problématique de communication des grands sites. Et donc, cette équipe a fait une proposition, nous lui avons dit cette proposition-là n'est pas satisfaisante non plus. Donc le comité de suivi devra, comme l'a dit Sylvain d'ailleurs, se pencher sur cette question. Aucune des quatre propositions, c'est la faiblesse, n'était satisfaisante. Or, la région Midi-Pyrénées, et c'est pourquoi nous avons contractualisé avec elle, souhaite, et on peut la comprendre, que, à propos des grands sites, le dispositif de communication soit présent et élaboré. Où se situera-t-il? Que sera-t-il? C'est au comité de pilotage. C'est à la fois un détail qui n'en est pas forcément un. C'est au comité de pilotage de le définir. Deuxième point. Troisième point. Après, à Michel. Nous avons, entre guillemets, Sylvain l'a dit avec ses mots, moi je le dis avec les miens, recadrer l'équipe à propos de la façade. Nous pensons qu'il y a des solutions différentielles d'une passerelle qui se situe au milieu. Et donc, ça sera aussi l'objet, il l'a dit, d'un travail conséquent à propos d'un élément qui était facultatif ou qui était optionnel, il l'a dit, deux équipes sur quatre l'ont proposé, deux équipes ne l'ont pas reconnu. Donc j'insiste bien sur ce point, le comité de suivi aura pour charge de peaufiner les choses, en particulier à ces deux niveaux. Sur la gare routière, dernière intervention. Il est clair que le bâtiment de la gare routière actuelle, j'en parlais dans les propos liminaires, il est vétuste, il est vidère, etc. Donc il est clair que dans son projet, ce bâtiment-là, il n'existe plus. Reste que la fonction liée à l'excursionnisme à partir de Lourdes reste une question importante. Moi, je le crois. À plusieurs regards. D'abord, c'est la jonction, et c'est ce qu'on a voulu dans le traitement des berges du Gard. Recadrer aussi par le sud une fonction pyrénéenne à Lourdes. Bien. Et l'excursionnisme est un élément très important. Donc, il ne s'agit pas de priver à la fois les socioprofessionnels lourdais d'autres, parce que l'entour de la gare routière aujourd'hui est anarchique complètement, avec tout ce que vous savez. Bon. Et beaucoup de pèlerins viennent, de visiteurs, de touristes, viennent là prendre le bus, pas simplement pour les fonctions liées à l'excursionnisme, mais pour d'autres. Il s'agit aussi, je le dis, de pouvoir conserver là un appareillage lié à ce que je viens de dire. Voilà. Ça, c'est pour clarifier un peu les choses. Notamment, Michel va les requalifier aussi en matière de risques naturels, domaine de l'institution particulièrement sensible.
Je vais aller très vite. Juste pour dire qu'un projet comme celui-là, qui est un projet d'aménagement de berge d'un cours d'eau, quel qu'il soit, emporte forcément la question de l'inondation et par définition, hein, n'importe quel cours d'eau dans n'importe quel endroit et a prétention à un moment donné déborder de son vide. Si bien que l'aménagement, lorsque M. le maire l'a bien évoqué, Sylvain l'a bien répété, le cahier des charges qui a été celui du concours a nécessairement pris en considération comme un élément clé. La question de l'inondation, et non seulement cette question-là, mais aussi le fait que des travaux importants ont été réalisés en termes d'études, études hydrauliques, qui avaient d'ailleurs déterminé largement les conditions de l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation qui, aujourd'hui, sont à l'eau. Ça veut dire que le traitement qui est proposé et qui sera probablement consolidé hein, par le comité de suivi va prendre en compte les éléments qui sont les éléments de l'histoire, mais bah, prendre en compte les éléments de la proximité, c'est-à-dire ces éléments récents. Dans la proposition qui est faite, d'abord, il y a deux choses qui sont très très visibles sur la photo. On s'aperçoit que l'esplanade du paradis bon, constitue cette espèce d'avancée hein, dans le lit, que ce n'est pas un espace construit, mais c'est un espace de parking, donc il peut effectivement avoir une fonction, à un moment donné, une fonction d'extension. Que les aménagements qui sont préconisés le long de la berge de la Mine du Paradis sont des aménagements qui sont des aménagements naturels, de façon à restituer d'abord à la berge une fonction de circulation piétonne, d'aménagement naturel, qui sont propices justement à la circulation des piétons, une espèce de reconquête par le piéton du bord de l'eau, que les dispositifs de végétation et d'aménagement sont faits pour être perméables et justement laisser une part à l'eau si l'eau venait à monter, laisser la part à l'eau en ne cherchant pas à endiguer, à monter des murs qui ne serviraient à rien si ce n'est à projeter des vitesses plus loin et à provoquer des catastrophes encore plus importantes. Donc en gros, ces aménagements sont des aménagements naturels avec double fonction, c'est-à-dire la fonction d'expansion et l'autre fonction qui serait celle aussi d'être des aires de dépôt, c'est-à-dire en fait ce fameux problème que tout le monde a vu hein, et qui fait que sur le verrou que constitue le pont-lieu, on a une accumulation impressionnante dans le bac et qui évidemment aggrave le facteur d'inondation sur la totalité. Donc on ne résoudra pas tous les problèmes, mais on a quand même, à travers cet aménagement, une réponse qui aura, enfin, si on est dans une situation un peu similaire, qui aura un effet retard. Il faut bien prendre ça comme lecture. Monsieur Aubert le disait, je crois que tout le monde doit bien le comprendre. La nature, rien ne fera jamais qu'on la transformera, il faut la réduire. Il faut la respecter. La respecter, ça veut dire qu'on peut quelquefois essayer d'aménager, de retarder un certain nombre d'effets, mais de toute façon, on ne peut pas stopper les masses d'inondations. Et on l'a vu dernièrement, la puissance qui est contenu dans ces événements-là, une puissance très très importante. Donc ce sont des aménagements qui prennent en considération le facteur inondation et qui se donnent des moyens pour retarder ces effets.
Merci Michel. On passe à la délib et puis on discute autour.